Peut-on en finir avec le séparatisme scolaire? Quelles idées, quels dispositifs et quels moyens peuvent favoriser la mixité sociale aujourd'hui menacée? Une crise qui cristallise une forme d'échec du projet républicain bâti sur l'école. Alors, que faire? Nous aurions besoin d'une révolution de la mixité. C'est le credo d'un petit livre publié dans une importante collection, La vie des idées au seuil. L'ouvrage, qui n'est pas si petit, c'est original, est co-signé par le sociologue François Dubé avec moi ce soir et l'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Son titre, Le ghetto scolaire, son propos, donner à lire des idées, principes, expérimentations qui fonctionnent. On va les raconter, les mettre en débat avec, entre autres, François-Xavier Bellamy du parti Les Républicains, qui a été enseignant et qui aime beaucoup parler d'éducation. Le sujet de la mixité, il est vrai, revient beaucoup dans le débat public avec vraiment une constance qui ne se dément jamais. On pense à la déclaration sur son évitement de l'école publique par Amélie Oudéa-Castéra, qui avait provoqué une avalanche de commentaires en janvier, c'est pas si loin. Mais surtout, aux travaux divers et variés, par exemple une audition menée par la Commission Culture Éducation de l'Assemblée Nationale le 26 février dernier qui avait pour objet le tri scolaire. Un rapport de France Stratégie, un service du Premier ministre, La force du destin, poids des héritages et parcours scolaires qui a fait l'objet d'une conférence publique il y a 4 jours. Et puis aujourd'hui même, ce lundi 4 mars, on a pu lire dans la presse les conclusions d'une note sur le bilan de la procédure d'affectation au lycée à Paris pour apprendre que du côté des collèges, le privé recrute toujours davantage. Et d'après les projections de Julien Grenet, les élèves issus des classes très favorisées représenteront 90% des effectifs de 6e du privé à Paris en 2034. C'est loin, mais si on parle de ghetto scolaire, ça donne une idée de la chose. Le phénomène qui est plus accentué dans la capitale touche un nombre croissant de villes en France, hein, m'avait expliqué l'économiste. Alors, le terme séparatisme scolaire entre dans le langage courant. Un autre chercheur de l'école d'économie de Paris, Youssef Soudi, évoque dans un livre à paraître la sécession scolaire. Donc, on n'en finit plus des termes de plus en plus fort. François Dubé, bonsoir. Est-ce qu'on peut commencer par les définir, ces termes? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, le séparatisme scolaire?
Alors, il faut d'abord avoir un raisonnement un peu historique, si je peux me permettre.
Volontiers.
Parce qu'on a souvent l'idée que, naguère, l'école était l'école commune de tous. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionnait. Pendant très longtemps, jusqu'aux années 60, l'école élémentaire était globalement une école assez mixte. Mais la séparation sociale se faisait dès l'entrée dans le secondaire et elle se faisait très massivement sur l'origine sociale, c'est-à-dire les enfants de la bourgeoisie allaient au lycée, quelques héros de la classe ouvrière les rejoignaient, les filles allaient dans des lycées de filles et les garçons dans des lycées de garçons. Donc on n'était pas du tout dans un monde scolairement mixte. Ce qui change la donne, c'est la massification, c'est l'idée que tout le monde va rentrer à l'école pour y mener potentiellement de longues études, avec cette croyance que nous avons eue que ça serait l'école de la mixité, de l'égalité des chances. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des processus de séparation. Alors, les mots sont forts, séparatisme, etc. Mais il faut bien voir les choses. Si vous regardez la totalité des établissements scolaires, ils sont plutôt mixtes. Enfin, ils ressemblent à des quartiers plutôt mixtes. Mais aux deux extrêmes, la tendance est aujourd'hui à la séparation. C'est-à-dire que c'est pour ça que Amélie Oudéa-Castéra fait une gaffe magnifique, parce qu'au fond, elle a dit ce que tout le monde savait, mais qu'il ne fallait pas dire. C'est-à-dire qu'on a des regroupements considérables, un entre-soi des élites, des bourgeoisies, des riches, des bons, etc. Et de l'autre côté, évidemment, c'est ce qui nous intéresse avec Najat, c'est le processus...
Najat Vallaud-Belkacem.
Je dirais Najat Vallaud-Belkacem, mais Najat c'est plus rapide.
Pour la radio.
Et puis c'est plus amical. Mais on a un mécanisme de ghettoisation, de rejet, qui fait que d'ailleurs, on s'y habitue, mais on ne devrait pas. Lorsqu'il y a des émeutes, les établissements scolaires flambent. c'est pas complètement complètement anecdotique.
Et même des écoles maternelles,
même des écoles élémentaires,
etc. François Dubé, parce que moi je dis le nom de famille, c'est ce que je trouvais mieux. Donc le passé scolaire mixte est un mythe. Toutefois, François Dubé, vous n'êtes pas historien, mais sociologue, et sociologue émérite à l'université de Bordeaux, directeur d'études à l'EHESS. Nous, les parents d'aujourd'hui, nous sommes des enfants du collège unique. C'est quand même ancien maintenant, ce projet.
Non, mais le collège unique est un projet ancien, mais le collège unique n'a jamais été aussi unique qu'on le suppose. Le collège unique a longtemps fait le tri, il y a eu des classes de niveau, des filières, des choix de langue, etc. Ce qui a changé considérablement, c'est qu'aujourd'hui, au fond, tous les parents savent que le destin social de leurs enfants se joue à l'école, que les diplômes ont une emprise considérable sur les carrières futures des enfants, et que donc les performances scolaires deviennent décisives. Donc, d'une certaine manière, nous avons des inégalités spatiales, des quartiers riches, des quartiers pauvres, etc., auxquelles s'ajoutent évidemment des choix, puisque nous avons intérêt individuellement à ce que nos enfants réussissent quand même nettement mieux que ceux des autres. Et donc, derrière le décor, et c'est ce que nous apprennent régulièrement les enquêtes PISA, au fond, c'est que derrière le décor de cette école homogène, avec des programmes nationaux, des affectations nationales, des grands modèles nationaux, en réalité, les mécanismes de tri et de séparation scolaire sont extrêmement brutaux. Et en France, c'est quand même une déception formidable, parce que, a priori, nous aimons beaucoup l'égalité, a priori, nous voulons une école républicaine, mais nos pratiques ne sont pas exactement celles-là. Et on voit aujourd'hui, au fond, une forme de séparatisme, ce qui fait que, d'un côté, ça a un impact scolaire considérable, puisque le regroupement des élèves faibles fait baisser leur niveau.
C'est ce que souligne PISA depuis
des
années.
C'est ce qu'on sait depuis très très longtemps.
C'est pour ça que c'est accentué chez nous.
C'est pour ça que le thème du retour des classes de niveau a quand même quelque chose d'un peu étrange, de ce point de vue-là. Et puis, de l'autre côté, il y a un séparatisme civique. D'une certaine façon, la République rêvait de ce que les jeunes soient éduqués ensemble. Et on s'accommode fort bien du fait qu'ils ne se croiseront plus jamais sur les bancs d'école. Enfin, en tout cas, qu'aux deux extrêmes de la hiérarchie sociale, ils ne se croiseront plus. Donc, c'est pas simplement un enjeu scolaire pour que la France améliore ses performances en PISA. C'est aussi un enjeu civique. Parce que ceux qui échouent à l'école, ceux qui sont rejetés par l'école, auront des choix politiques, nous le ferons payer, auront du ressentiment, auront de l'hostilité à l'égard de l'école, mais aussi à l'égard des valeurs que l'école pourrait incarner. Donc ça n'est pas qu'une affaire scolaire, cette histoire.
Cette histoire de ghetto scolaire. On s'arrête un peu sur le projet du livre. Un sociologue connu pour ses travaux sur l'école, mais aussi sur la relégation sociale. Vous avez beaucoup travaillé sur les inégalités, François Dubé. Et une femme politique a été donc ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Bien, c'est à votre co-autrice que j'ai demandé quelques explications sur la manière dont vous voyez tous les deux ce projet de livre, donc publié dans la collection La République des idées au Seuil.
Comprendre que c'est un phénomène qui n'est pas prêt de s'arrêter et qui au contraire ne fait que s'aggraver, ça rend pessimiste parce qu'on se dit comment vivre ensemble si on n'a pas grandi ensemble. Et donc c'est de tout ça qu'il est question dans ce livre où il s'agit d'une façon très pragmatique et très humble en réalité de repasser en revue l'histoire de cette ségrégation spatiale, puisque ça commence d'abord par le spatial, mais aussi l'histoire des stratégies des familles, l'histoire des discours politiques et la façon dont petit à petit s'est installé ce récit selon lequel pour que son enfant réussisse, il vaut mieux le distinguer de la masse de ceux qui seraient susceptibles de le retarder. L'idée de ce livre, c'est fort des études, fort des expérimentations, de montrer au contraire que c'est dans le mélange et dans cette mixité qu'on a tous à gagner. Les quelques personnes qui, partant du bas de l'échelle sociale, arrivent à accéder à des responsabilités ont, me semble-t-il, cette plus-value de pouvoir parler les deux langages, de connaître les codes d'en bas d'une certaine façon et les codes d'en haut. Et c'est quelque chose d'extrêmement précieux quand on fait des politiques publiques, quand on s'adresse aux Français, quand on essaye de changer la vie. A contrario, les personnes qui aujourd'hui appartiennent à l'élite, qui en ont un peu hérité de ces positions et qui, compte tenu de l'absence de mixité sociale dans leurs études, etc., n'ont jamais fréquenté le bas de l'échelle sociale, n'ont pas ce bilinguisme social. Et c'est ce qui provoque beaucoup de blocages à des moments où on a le sentiment qu'il y a une déconnexion totale entre ce que va dire l'élite et les politiques publiques qu'elle adopte et la réalité des gens. Et donc, ma conclusion, c'était de dire que le bilinguisme social ne doit pas être simplement l'apanage des quelques-uns qui, venus d'en bas, sont arrivés en haut, mais devrait être une pratique, une culture dont seraient familiers tous ceux qui, à un moment donné, prennent des décisions. Et pour ce faire, ça passe notamment par avec qui ils ont étudié, quelles écoles ils ont fréquentées. Est-ce que dans leurs camarades, il n'y avait que des gens qui leur ressemblaient ou est-ce qu'il y avait toutes les catégories sociales ? Donc c'est pour ça que ça plaide une fois de plus pour cette mixité à l'école.
Quand vous parlez de communiqués nationaux et d'actions qui viendraient d'en haut comme ça, est-ce que vous pensez, moi j'y ai pensé en vous écoutant à Papendiaï par exemple, qui a essayé quand même d'impulser quelque chose et qui a parlé beaucoup de mixité sociale sans vraiment arriver à ses fins quand il a été ministre de l'Éducation?
Oui, enfin, on pourrait en prendre beaucoup d'exemples. Malheureusement, je pense que de manière générale, l'écosystème du débat public, l'écosystème médiatique qui entoure l'action politique vous pousse à faire des coups d'éclat, à l'immédiateté, à la rapidité des choses, alors que la politique publique, son temps est forcément long, surtout lorsqu'il est question d'éducation. Et donc, travailler sous les radars, prendre le temps, c'est des choses absolument précieuses que tous les ministres n'ont pas forcément, d'ailleurs, hein, ils sont pas maîtres de leur temps, on l'a vu avec Papendiaï par exemple. Mais l'autre chose qui me paraît absolument essentielle, c'est le sérieux avec lequel on traite ces sujets-là. C'est-à-dire, par exemple, j'ai trouvé ça positif que Papendiaï se saisisse, annonce vouloir se saisir du sujet de la mixité sociale. En revanche, je n'ai pas compris que, au même moment, vous aviez l'évaluation par les chercheurs de ces expérimentations de 2015 qui sortaient, on est au printemps 2023, eh bien, il n'en fait quasiment jamais mention nulle part. Ça ne l'alimente pas particulièrement. Alors que, si vous voulez vous saisir de ce sujet, la première chose que vous faites, en tout cas c'était ma façon de procéder à l'époque, c'est d'aller regarder ce qui s'est construit, comment ça a été évalué, y compris pour ne pas commettre à nouveau certaines erreurs, pour tirer le meilleur de ce qui a été fait. Et donc je suis un peu frustrée par ce manque de sérieux avec lequel on traite ces politiques de l'éducation.
François Dubé, sociologue, co-auteur avec Najat Vallaud-Belkacem, qu'on vient d'entendre, du ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme. Vous avez l'impression que les politiques n'écoutent pas, ne connaissent pas les recherches en sociologie de l'éducation, ces recherches qui sont aussi, on a parlé de PISA, des travaux de l'OCDE, des travaux des services même de l'éducation nationale qui disent que la ségrégation scolaire est un problème.
Donc je ne sais pas s'ils les connaissent pas. En tout cas, ils ont un entourage qui ne les ignore pas complètement. Mais sur ces questions-là, il y a quand même, au fond, une grande difficulté politique. La difficulté politique, c'est que nous sommes tous très attachés à l'égalité, évidemment, mais que le choix de l'inégalité, il est fait par chacun d'entre nous. Et donc, vous êtes dans une situation politiquement très très difficile, puisque si vous dites « je vais favoriser la mixité scolaire », vous avez quand même de grandes chances de vous mettre des classes moyennes supérieures à dos, sans avoir la certitude que les classes populaires pour lesquelles vous allez jouer vont vous le rendre politiquement. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et je crois que l'intérêt de la démarche qui a été entreprise, c'est de dire on va sortir des imprécations, parce qu'on est dans un monde de l'indignation permanente. Enfin, on dénonce, et puis la vie reprend son cours. Regardez comment, quand les enquêtes PISA arrivent, pendant deux semaines, on est complètement au fond du trou. Et puis, deux semaines après, on a complètement oublié cette affaire jusqu'à la prochaine.
Qui ont les commentateurs,
les
éditorialistes.
Notre monde.
Ici, on en parle très, très souvent.
Non, mais ils en parlent, mais politiquement, ça, il n'y a rien. Bon, voilà. Nous sommes le pays dans lequel les inégalités scolaires sont beaucoup plus grandes que ce que supposeraient les seules inégalités sociales. Et alors, on oublie donc l'intérêt de la démarche, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire là où se posent des problèmes. Donc, c'est aussi une rupture dans la tradition politique. La tradition politique française, c'est la rue de Grenelle décide, lance des grands projets, et ensuite advienne que pourra. Là, il y a quelque chose qui est quand même assez révolutionnaire, d'une certaine façon, qui consiste à dire, dans ce secteur, il y a un problème considérable de mixité. On met autour de la table le rectorat, le conseil départemental qui est Bachel, les communes, les enseignants, les parents, parce que c'est essentiel. Si les parents ne jouent pas le jeu, on peut toujours faire ce qu'on veut. Et donc, ça consiste à dire, il faut qu'il y ait une impulsion nationale. Et ce qui est reproché, évidemment, au dernier ministre, c'est de ne pas avoir été très sensible à cette question-là. Mais il faut que les acteurs se saisissent du problème tel qu'il se pose, là où il se pose. Ce qui fait que c'est quelque chose d'un peu étrange, d'une certaine façon, dans notre grande tradition, c'est de dire la mixité scolaire, la mixité sociale peut se construire à l'école, mais il n'est pas évident que les manières de faire seront les mêmes partout, parce que les problèmes ne seront pas les mêmes partout. Évidemment, c'est très contradictoire avec notre imaginaire d'une école où la rue de Grenelle décide de ce qui se passe dans les 7500 collèges français. Voilà.
Donc, on peut parler des projets concrets, tels que vous les décrivez dans le livre.
Les projets concrets, il y a plusieurs formules qui ont été choisies, mais qui n'ont pas été choisies par la ministre, qui ont été choisies par les acteurs concernés. Bon, par exemple, on va redéfinir les secteurs. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut qu'il y ait des moyens de transport, etc. Par exemple, ça a été la grande expérience de Toulouse, dire il y a des collèges tellement ghettoisés, on arrête. Et on va passer un temps considérable, à convaincre les collèges plus chics.
On arrête,
chics.
Ça veut dire qu'on ferme un établissement.
On les ferme. À convaincre les établissements plus chics du centre-ville d'accueillir ces élèves qui ont une si mauvaise réputation et convaincre les familles que ça vaut le coup que leurs élèves prennent le bus pour aller ailleurs. Ça prend du temps, mais ça a marché. On peut dire qu'on va créer dans certains établissements des formations qui sont plutôt prestigieuses, élitistes, c'est-à-dire capables de maintenir ou d'attirer des élèves plutôt bons et de classe moyenne, du style, culture anglaise ou sport, ce qui a été fait à Montpellier. Donc, les solutions ne sont pas les mêmes. Et la difficulté est toujours la même, d'ailleurs. C'est qu'il ne faudrait pas combattre la ségrégation sociale en créant une ségrégation scolaire. C'est souvent la tendance. C'est-à-dire que vous dites, bon, c'est pas compliqué, je crée des classes d'élite dans le collège populaire de manière à garder.
Avec des options, voilà, telles avec que des la options, musique, etc.
Et évidemment, vous avez changé une ségrégation pour une autre. Bon. Donc il faut aussi avoir la capacité de combiner les choses. Et ce qui a fait la force, au fond, de cette politique, qui reste petite, parce que c'est quelques dizaines d'établissements, c'est qu'elle a été évaluée et qu'elle montre quand même deux choses très importantes. Un, et ça c'est fondamental, c'est que le niveau scolaire des bons élèves ne pâtit pas de la mixité, parce que la terreur des parents, c'est que si mes enfants fréquentent des élèves faibles, ils vont être tirés vers le bas, ce qui est une antienne que nous entendons du matin au soir. C'est pas vrai. Et la seconde chose, c'est que le climat scolaire, la civilité, la tolérance, la capacité de vivre ensemble font des progrès considérables. Donc, d'une certaine manière, les meilleurs n'en pâtissent pas, les moins bons en bénéficient, et surtout, c'est quand même pas une ambition considérable. On peut faire que les élèves, en tout cas durant la scolarité obligatoire, les élèves et les jeunes de ce pays vivent un peu ensemble. Parce que si on laisse faire les choses, ils ne se verront plus jamais ailleurs que sur des réseaux sociaux, d'une certaine façon. Donc, je crois que cette politique, moi, ce qui m'a attaché, au fond, à ce livre, c'est que c'est pas une nouvelle manière de dénoncer, de dire il y a trop d'inégalités, on peut rien faire, le capitalisme, le néolibéralisme, enfin, on peut aller. C'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, non pas pour faire une école parfaite, mais pour faire que ça soit quand même un peu moins mal.
François Dubé, ne pourrait-il pas y avoir un biais de confirmation ? C'est-à-dire que puisque ce sont des acteurs volontaires, des politiques qui décident d'accompagner des projets de mixité sociale, qu'il peut y avoir aussi un certain volontarisme des équipes locales, des principaux de collèges, etc., ben on va tomber sur des endroits où les gens sont d'extrêmement bonne volonté, donc ça marche, mais c'est absolument pas réplicable partout, parce que cette volonté, on va pas la retrouver ailleurs.
C'est certainement pas réplicable. On avait étudié il y a très longtemps l'effet établissement. Vous changez le principal et l'établissement s'effondre.
Comme l'effet maître dans une
voilà,
classe.
Voilà, comme l'effet maître, qui est un effet bien plus décisif d'ailleurs que l'effet établissement. Ceci dit, le Baudel suggéré, c'est de dire que la responsabilité de l'État, c'est de dire aux acteurs qui n'ont pas le choix, c'est de dire c'est une exigence politique que vous n'avez pas à négocier, c'est que la mixité scolaire et la mixité sociale sont une bonne chose. Ça ne dépend pas, vous, agent de l'État, ça ne dépend pas de votre bon vouloir. Imaginez que les médecins disent « moi, je choisis à l'hôpital de m'occuper de tel malade et pas de tel autre ». On serait quand même un tout petit peu embêté. Donc non, évidemment, il y a probablement un effet Pygmalion, enfin, c'est-à-dire on y croit et donc ça marche. Mais je crois qu'on pourrait parfaitement dire sur un certain nombre d'établissements scolaires, de secteurs scolaires, dire vous avez la responsabilité de régler ce problème.
Alors, une partie de la solution, ce serait aussi d'associer le privé, l'enseignement privé. Il y a un exemple, c'est Redon, on a même le nom de l'établissement, Saint-Joseph. Et ça, finalement, c'était dans le projet un petit peu avorté de Papa Ndiaye sur la mixité sociale. On en a beaucoup parlé, ça paraît très très loin. Et c'est il y a quelques mois, l'idée de demander un peu des comptes au privé, c'est-à-dire de pouvoir compter un peu les élèves, leurs origines sociales, pour qu'ils participent.
Alors, Papa Ndiaye, je rappelle qu'il a été assassiné par la droite, enfin, de manière extrêmement violente. Je veux dire, les attaques qu'il a subies et que sa majorité ne l'a pas soutenu du tout. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il ne s'est rien passé. Alors même, semble-t-il, que les responsables de l'enseignement catholique étaient plutôt pas totalement hostiles à discuter. Alors, je crois qu'avec ce qui s'est passé, cet épisode un peu étrange d'Amélie Oueda Castéra, la question est sur la table. Et maintenant, la Cour des comptes vient de la reposer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le privé être financé massivement par le public. On ne peut pas faire qu'il soit aussi massivement financé, on l'oublie, par les régions, les communes et les départements. C'est-à-dire que tout le monde... tout le monde fait son obol.
Bah, c'est-à-dire que s'il y a des bâtiments scolaires, c'est bien à la région, au département, etc.
Le privé se dispense là-dessus. Donc, on a aujourd'hui des outils qui ne sont pas complètement insignifiants. Que l'indice de position sociale, qui peut consister à dire si vous ne jouez pas le jeu, eh bien, on agit. Mais on ne pourra pas. Je veux dire que il y a un marché scolaire. Il y a un marché scolaire, les parents choisissent, il y a ce marché. Il est à la fois public et privé, c'est un peu compliqué, mais les marchés, ça se régule. Voilà. Et on ne pourra pas, et c'est au fond ce qu'on pourrait attendre de la période dans laquelle nous sommes, c'est que je crois que le privé va être tenu, au fond, d'accepter des contraintes qu'il n'accepte pas. Il ne peut pas continuer à dire « je fais mon marché ». Parce que vous avez des stratégies... Alors, il y a à la fois, je dirais, le recrutement social des élèves, mais il y a aussi le recrutement scolaire. Où le privé dit « nous, on veut bien être mixte, mais avec de très très bons élèves, qui ne font pas baisser notre... »
Et qui n'y ont plus dans l'enseignement public. Donc ça pose une question
notre standing, compliquée,
parce qu'il n'y a pas que l'indice de positionnement social, il y a aussi le niveau scolaire.
Évidemment, on n'est plus en 1984, personne, raisonnablement, ne dit « supprimons l'école privée ». Mais en même temps, on ne peut pas laisser l'école privée continuer à fonctionner de cette manière. Je rappelle qu'elle a gagné quand même 5 points d'indice IPS durant les 5 dernières années. C'est considérable.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est cet indice IPS, qui est donc l'indice de positionnement social, qui est connu parce que des journalistes ont demandé à le connaître dans le cadre de...
Parce que les fédérations de parents d'élèves ont obtenu.
Et voilà. Aussi, et donc pour ça, il faut demander à l'État de rendre publiques les données publiques qui sont nombreuses. Mais celle-là, évidemment, est particulièrement éclairante. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose, et ça fait longtemps que l'émission existe, c'est pas un outil dont on disposait avant. Par ailleurs, il y a des études qui s'accumulent, et je l'ai dit en introduction, sur la question. Donc moi, j'ai demandé à Johanna Barras, qui est docteur en histoire, mais surtout co-autrice du rapport de France Stratégie, donc c'est service de l'État du Premier ministre qui définit un peu des objectifs pour le pays, donc autrice d'un rapport intitulé « La force du destin, poids des héritages et parcours scolaire ». À quoi servaient pour elle ces rapports qui répètent des constats relativement connus tout de même.
Ce qu'on espère que ça apporte, c'est déjà la capacité à animer le débat public et donc à donner à voir, dans un format qui soit accessible, ces résultats qui ne relèvent pas de l'évidence, mais sont assez largement connus pour une part d'entre eux. Donc il y a un travail de valorisation, de synthèse, de mise à disposition du public, mais il y a aussi un travail d'actualisation. Ce qu'on espère à travers ce rapport et cette note qu'on met à disposition, c'est aussi la possibilité pour des chercheurs, des étudiants, des journalistes, et toutes les personnes intéressées de trouver les derniers chiffres, les dernières publications, les derniers éléments disponibles sur ces sujets. Mais c'est évidemment pas que ça. Il y a un travail propre ici. Et ce qu'on a essayé de faire, et pour le coup qui n'existait pas actualisé à ce point, c'était vraiment de croiser des principaux déterminants des inégalités scolaires. Les principaux déterminants, encore une fois, hérités des déterminants scolaires, il y en a bien d'autres. Par exemple, dans ces travaux, on n'a pas travaillé sur la question du territoire, la question des conditions de scolarisation. On a aussi d'autres réflexions là-dessus, mais dans ces travaux, on s'intéresse vraiment aux caractéristiques héritées. Et donc, on a regardé à la fois l'ascendance migratoire, l'origine sociale et le genre. C'est rarement fait les trois en parallèle. Et on a regardé ça sur l'ensemble de la scolarité, même un petit peu en amont, puisqu'on commence dès la petite enfance. Et donc, ce panorama très large, à la fois multifactoriel et sur l'ensemble de la scolarité, c'est quelque chose de relativement original et qui permet de faire quelque chose que alors la littérature peut pointer, mais peut-être avec une évidence moins directe, qui permet de pondérer, de hiérarchiser le poids de ces différents facteurs. On le sait, quand on regarde le poids respectif de l'origine sociale, et l'origine sociale, quelle que soit la manière dont on la regarde. C'est-à-dire qu'on peut regarder le revenu des parents, on peut regarder leur catégorie socio-professionnelle, leur profession, on peut regarder ce qu'on appelle leur capital culturel, en particulier leur niveau de diplôme, et tout particulièrement le niveau de diplôme de la mère. Quelle que soit la manière dont on le regarde, ce poids de l'origine sociale, il est très largement dominant, et bien supérieur à celui qui existe quand même, mais bien supérieur à celui du genre, et plus important encore, bien supérieur à celui de l'ascendance migratoire. Si on regarde les trajectoires des élèves dont les deux parents sont émigrés et qu'on les compare avec les trajectoires des élèves dont les parents sont natifs, nés en France tous les deux et sans origine migratoire, on voit des différences. On voit des différences, c'est incontestable, des trajectoires qui sont un peu plus heurtées, un peu plus difficiles pour les enfants d'immigrés, mais sans commune mesure avec celles qui sont liées à l'origine sociale. Et ce qui est plus important encore, c'est que si on regarde non plus ces trajectoires de façon brute, mais si on compare des enfants d'immigrés de même niveau social que leurs camarades, sans ascendance migratoire, alors là, il n'y a plus d'écart du tout. Ou en tout cas, en moyenne, ce n'est pas vrai forcément pour toutes les origines et à exactement toutes les étapes de la scolarité, mais en moyenne, les écarts sont très estompés. Et il n'y a pas de trajectoire défavorable des enfants d'immigrés par rapport aux enfants natifs quand on les regarde à conditions sociales équivalentes.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
François Dubé, vous parlez de ghetto scolaire. Il est fort, ce mot de ghetto. Il évoque aussi un évitement qui peut être un évitement des enfants issus de l'immigration ou étant perçus comme issus de l'immigration par certaines familles. Alors évidemment, c'est pas forcément quelque chose qu'on déclare, mais on va dans certains établissements, on voit bien que et ce constat est fait de manière empirique, on peut pas chiffrer en France, hein, mais on voit bien que on est en présence d'une grande masse d'enfants issus de l'immigration ou d'enfants non blancs.
Alors, ce qui vient d'être dit est vrai, c'est-à-dire que l'origine sociale pèse considérablement plus que l'immigration. Je me souviens même de vieilles enquêtes de cahiers qui montraient que les enfants d'immigrés, toutes choses égales par ailleurs, réussissaient mieux que les enfants de natifs, comme on dit. Donc, le problème, c'est la transformation des quartiers populaires. C'est ça la grande histoire. La grande histoire, c'est que jusqu'aux années 80, dans les quartiers populaires sont des quartiers d'ouvriers dans lesquels il y a des familles immigrées, dans lesquels vivent les enseignants, vivent les militants, vivent les travailleurs sociaux. Il y a donc une petite classe moyenne d'une certaine façon. C'est populaire, c'est triste. C'est ce qu'on appelait la sarcellite à l'époque, etc. Mais ce sont des quartiers où vous avez de la proximité spatiale, un peu de mixité sociale, par rapport à aujourd'hui, beaucoup de mixité sociale. L'histoire de ces quartiers est simple, c'est que ceux qui ont réussi sont partis.
Donc plus soient, de ségrégation sociale.
Qu'ils soient français ou immigrés, ils sont partis. Ils sont remplacés par des gens qui sont plus pauvres, et ils sont remplacés par des immigrés qui viennent d'encore plus loin. Donc la composition sociale de ces quartiers, c'est d'une certaine manière ghettoisée, c'est-à-dire que c'est plus la classe ouvrière ou les classes moyennes inférieures, c'est vécu comme un autre monde, avec un mécanisme de mobilité d'ailleurs qui fait que ça se renforce, puisque si je réussis, je m'en vais, je suis remplacé par plus pauvre qui vient de plus loin, etc. Les enseignants ne vivent plus dans ces quartiers, personne ne leur reproche, mais ils ne vivent plus dans ces quartiers, les travailleurs sociaux ne vivent plus dans ces quartiers. Et quand vous avez des émeutes, vous avez remarqué que les appels au calme sont parfaitement... Personne ne les écoute, personne n'est pas... Bon, donc, vous avez un mécanisme... Le mot ghetto n'est pas excessif, parce que vous avez un mécanisme objectif, je dirais, de mise à l'écart, de marginalisation. Le mot ghetto a aussi un sens, parce que les habitants de ces quartiers, eux-mêmes, commencent à intérioriser cette exclusion. Après tout, les garçons de ce quartier commencent à dire « on n'est plus dans la société, on ne se sent plus français ». On est victime du reste de la société, on est victime du racisme, on a nos propres lois, nos propres mœurs, on contrôle les filles et un certain nombre de trafics. Donc, c'est un classique de la littérature sociologique. C'est que le ghetto, il est fabriqué du dehors, mais à un moment donné, il se fabrique du dedans. Ça devient une culture du ghetto. Alors, c'est très compliqué parce que la France n'a pas des ghettos au sens du Deep South de Chicago. Mais les mécanismes de ghettoisation, les mécanismes d'émeute, les mécanismes d'entre-soi, etc., se renforcent. Et alors, scolairement, ça se manifeste aussi, parce que vous avez dans les établissements les plus difficiles, notamment les garçons, qui commencent à dire « c'est pas pour nous, cette école est là pour nous humilier, cette école est là pour nous exclure, et d'une certaine manière, nous allons construire notre dignité contre cette école ». Donc, le mot ghetto, moi je reprends la formule de mon ami Didier Lapéroni, qui avait écrit un livre formidable qui s'appelait Le ghetto français, qui disait le ghetto est un mécanisme. Il y a du ghetto dans la cité. La cité n'est pas un ghetto, mais il y a du ghetto dans la cité. Le collège n'est pas un ghetto, mais il y a du collège. Et donc à partir de là, eh bien, le collège qui était le collège des pauvres et des ouvriers devient le collège des immigrés, des arabes, etc. etc. Et les processus à la fois d'exclusion et d'identification fonctionnent à plein, et vous avez des mécanismes que vous ne pouvez plus, d'une certaine manière, arrêter, puisque les habitants du quartier qui veulent que leurs enfants réussissent vont aussi fuir le collège du quartier. Et donc vont produire le ghetto qui condamne, je ne sais pas si...
Oui, oui,
c'est
ce que je dis des habitants parmi lesquels des familles issues de l'immigration, ce qui peut vouloir dire des tas de choses, parce que, évidemment, aujourd'hui, on peut être issu de l'immigration sans faire partie des catégories
l'immigration
populaires,
homogène,
etc.
Elle n'existe que dans l'imaginaire du Rassemblement national. C'est un monde très compliqué.
Alors, concernant les ghettos, l'évitement scolaire et la violence, aujourd'hui, on a un sujet autour de la violence à l'école. Alors pareil, hein, peut-être que ce sujet n'a jamais vraiment quitté le devant de l'actualité. On a eu plusieurs faits très très récents. Un proviseur qui a eu une altercation très violente avec une élève qui a refusé d'enlever son voile à Paris. On a pu penser aussi à une professeure qui avait été mise en cause par des élèves parce qu'elle avait montré un tableau de la fin de la Renaissance avec des femmes nues. Ça, c'était dans les Yvelines. Et puis une proviseure, Lucie Pitiot, qui suite à un conseil de discipline et une exclusion, a été menacée de mort par un parent d'élèves, ce qui peut, voilà, comme atmosphère détournée de l'école publique. En tout cas, moi, j'en ai parlé avec Lucie Pitiot, qui est donc proviseure, qui fait le lien entre ségrégation socio-scolaire et violence.
Il est évident que la grande concentration de publics qui ont exactement les mêmes codes, les mêmes façons de penser, c'est générateur de violence. Pour moi, ceci dit, il y a deux formes de violence. Il y a les violences qui hurlent, celles qu'on entend, celles des émeutes. Il y a aussi des violences feutrées, comme le harcèlement, comme les discriminations de toutes formes, qui sont souvent le fruit, disons, d'idéologies dogmatiques qui se diffusent essentiellement sur les réseaux sociaux et qui n'épargnent aucune classe sociale. Donc cette violence un peu paroxystique qu'on voit dans certains établissements, on a tendance un peu hâtivement à considérer qu'elle est le fruit des quartiers. En fait, elle est le fruit, je crois, fondamentalement, de la concentration de public avec les mêmes idées qui, du coup, réagissent au même code et ont la tentation d'une forme de séparatisme. Ils ont la tentation de concevoir que la règle du groupe, qui vaut à l'intérieur du groupe, peut se substituer à la règle commune. Eh bien, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'école de la République, où les règles sont les mêmes dans le centre-ville de Paris et aussi au bord du périphérique. Et je crois fondamentalement, c'était le sens de mon intervention sur les réseaux sociaux, que le fait d'apprendre à se connaître entre milieux différents, en mélangeant les publics, devrait permettre de ne pas considérer justement l'autre comme une espèce d'altérité hostile. Considérer le point de vue des autres doit permettre d'avoir une pensée un peu plus éclairée. Quand on fait des efforts, et c'est le cas dans mon établissement, pour amener la philosophie à l'intérieur des classes, c'est exactement le propos. Cesser de penser de manière dogmatique à partir de ce que les réseaux sociaux inculquent aux élèves à longueur de journée sur des TikTok auxquels nos jeunes de moins de 13 ans ne devraient même pas accéder, en théorie, et substituer à cela une pensée autonome, guidée par la philosophie, par cette méthode qui consiste à avoir la considération pour le point de vue de la personne en face. Les initier au débat philosophique, je crois que c'est fondamental. Et si on ne rencontre pas cette pensée de quelqu'un d'autre à travers une activité de ce type, ou simplement en mixant les publics à l'intérieur des établissements scolaires, c'est évident qu'on va avoir ce que favorisent les réseaux sociaux eux-mêmes, c'est-à-dire le partage exclusif de propos qui nous complaisent. D'ailleurs, les contenus que nous proposent les réseaux sociaux sont très exclusivement ressemblants aux choses qui ont attiré notre attention, puisque l'objectif, c'est de faire des vues.
La mixité sociale, Madame la proviseure Lucie Pitiot, c'est vital pour vous, on l'entend. Et en même temps, c'est votre problème en tant que proviseur d'une cité scolaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des violences, où elles sont connues dans votre établissement, on sait que ça ne fait pas une bonne publicité. On sait que l'établissement va être d'autant plus évité parce que le travail de pédagogie pour faire rester les publics les plus privilégiés est très complexe et très long et va buter sur ce genre d'événement.
Oui, oui, c'est certain. Et d'ailleurs, il est toujours plus difficile de revenir à une réputation positive une fois qu'on a effectivement connu un événement qui a pu être vécu de façon traumatique dans un établissement scolaire. Je crois pour autant qu'il ne faut pas le cacher, il faut travailler dessus. Et quand on lance, comme c'est notre cas, des actions autour, je vous le disais, de la philosophie, mais autour aussi du développement des compétences psychosociales, d'une éducation à la relation et à la sexualité, sexualité, parce que ça aussi, c'est une difficulté pour nos jeunes, cette culture d'une forme de virilité qui s'avère relativement toxique dans les rapports. C'est-à-dire que tout cela est lié. Je crois que cette façon de se construire, elle a quelque chose à voir aussi avec des pensées dogmatiques qui font le jeu d'une pensée patriarcale. Enfin, voilà, tout cela est lié. Donc, il y a à la fois une dimension sociale absolument évidente et qui s'exprime dans un paroxysme de la violence par moment. Il y a aussi cette construction, cette espèce de contre-culture du viril. Et puis, cette observation que finalement, le phénomène social, il est très partagé, qui n'épargne aucune classe sociale et qui consiste à se retrouver entre soi.
Comment convaincriez-vous des parents hésitants, des parents CSP+, très diplômés, de venir au collège dans votre établissement ?
Eh bien, qu'ils nous rencontrent à l'occasion des journées portes ouvertes. Et puis, on fait le tour de tout ce que cet établissement est capable d'offrir, à la fois de l'extrême disponibilité, l'extrême bienveillance des enseignants, de la qualité de l'enseignement qui est proposé, de la qualité des matériels qui sont mis à la disposition des élèves. C'est extrêmement vaste et j'en ferai pas le tour en quelques minutes. Je crois qu'il faut vraiment venir nous rencontrer.
Alors, comme dans le livre François Dubé que vous publiez avec Najat Vallaud-Belkacem, Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme, Lucie Pithiaud donne des idées de ce qu'on peut faire pour la mixité sociale, pour attirer au collège, surtout puisqu'elle est proviseure d'une cité scolaire, donc il y a un collège, au collège, tous les publics du quartier du collège. En même temps, ce qu'on a pu relever ces derniers temps, et ça on l'a vu avec les groupes de niveau, on a fait parler ici des enseignants, des principaux de collège, on a pu lire aussi ailleurs, c'est que si le projet était contesté, c'est parce qu'il est très, très difficile à faire. Alors, ce n'est pas les classes de niveau, ce sont des groupes en français et en mathématiques, ce qui rend peut-être la chose encore plus complexe, mais c'est aussi au nom du collège unique, de l'apprendre ensemble. Et ça, ce sont des enseignants qui le disent. Alors, en fait, pas tous, mais pas mal d'enseignants.
Ça, c'est une formidable nouveauté. Parce que quand on regarde l'histoire du collège unique en France, qui est mal née, puisqu'on a dit le collège unique, ça sera à la fois le lycée bourgeois et l'école de tous. Donc il est né dans une contradiction impossible.
Lycée bourgeois dans sa pédagogie, dans son organisation.
Ses programmes, bien sûr. Et ça sera l'école de tous. Ce qu'on appelait l'élitisme pour tous. À l'époque, c'était la rhétorique. Et le monde enseignant, je dis ça sans esprit critique, mais au fond, a toujours résisté. Et on a eu des classes de niveau, des filières cachées. Et je me rappelle quand, en 2000, j'avais été chargé de faire une proposition sur le collège, le refus de l'idée de socle commun. Enfin, le monde enseignant résistait très fortement à l'idée que tous les élèves devaient être traités de la même manière, et il y avait l'idée qu'il fallait déjà faire le tri au collège. Pour une raison aussi qui n'était pas complètement négligeable, c'est que c'est très difficile de faire la classe à des élèves qui ont des niveaux très différents.
Classe hétérogène.
La très bonne nouvelle, c'est que ça a duré encore. D'ailleurs, quand Najat Vallaud-Belkacem était ministre, son projet de réforme du collège avait été fortement combattu. D'ailleurs, quand Jean-Michel Blanquer avait arrêté, tout le monde, personne n'avait protesté. Là, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que les enseignants commencent à dire on ne veut pas ce système. Au fond, on est en train d'accepter l'idée que le collège, c'est l'école de tous, c'est la scolarité commune, et que le tri, ça ne se fait pas au collège. Alors, c'est très compliqué, parce qu'il faut des pédagogies, il faut des moyens, etc. Mais moi, j'ai été très frappé par ça. J'ai été très frappé quand j'ai entendu des enseignants dire « J'ai pas envie de dire à des élèves qui rentrent en sixième, toi, t'iras chez les forts, toi, t'iras chez les faibles. » Il y a quelque chose qui est peut-être en train de changer.
Le collège unique est resté unique malgré les alternances politiques et malgré des sévicissitudes, c'est sur la longueur que le projet s'installe.
C'est-à-dire que c'est sur la longueur que le projet s'installe. Il y a peut-être aussi l'idée que c'est plus possible de commencer à trier les élèves de plus en plus tôt, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être aussi qu'après tout, soyons optimistes, les recherches pourraient commencer à être connues, enfin on pourrait savoir que c'est pas si mal que ça, mais il y a quelque chose qui a changé, parce que je peux vous dire que la résistance à l'idée de collège unique et a toujours été extrêmement forte, et pas simplement à droite. La chute du niveau, les élèves qui ne devraient pas être là. Je rappelle qu'aux dernières présidentielles, on a vu des candidats suggérant de refaire l'examen d'entrée en sixième.
Ça revient régulièrement, mais Jean-François Copé l'avait dit en son temps, et puis ça a pu être dans le
ou de
programme
faire un
du Rassemblement
à la fin
national
de la cinquième pour mettre, etc., etc. Donc il y a quand même une bataille qui est peut-être pas si mal engagée de ce point de vue-là.
Alors, puisqu'on parle de la droite, c'est très très important. On a un peu changé l'ordre des interventions dans l'émission, mais c'est très important d'entendre François-Xavier Bellamy, qui devait passer un peu plus tôt, mais on a complètement le temps de l'écouter, parce que il n'y a pas qu'une vision de gauche de l'échec de la mixité sociale. Il y a aussi une argumentation de droite, celle de François-Xavier Bellamy, entre autres, parce qu'il s'est beaucoup exprimé sur le sujet, parce qu'il a écrit un livre sur le sujet. Aujourd'hui, il est tête de liste aux européennes pour les Républicains, parti dont il est le vice-président exécutif. Écoutons-le.
Je crois que la crise de l'école, elle vient très largement du soupçon porté sur la transmission de la culture comme étant intrinsèquement un moyen de créer de l'inégalité. C'est évidemment les héritiers de Pierre Bourdieu, c'est 1964. Évidemment, ça dure depuis longtemps dans notre pays, mais qui a produit, par la lecture que Bourdieu et Passeron faisaient de l'inégalité scolaire, qui a produit la crise qu'elle dénonçait, qui a produit l'injustice qu'elle voulait contester. Bourdieu et Passeron, dans Les Héritiers, mais aussi dans La Distinction, dans La Reproduction, expliquent que la culture est intrinsèquement une structure de ségrégation sociale et que l'école est un lieu de reproduction des inégalités. Et en réalité, à force de porter ce soupçon sur la culture, on a fini par organiser l'inégalité que l'on prétendait dénoncer.
Est-ce qu'on a un déficit pédagogique transmettre aux élèves des milieux populaires? C'est quelque chose que l'école française ne ferait pas bien, et c'est là où le bât blesse.
Bien sûr, et ça n'est pas seulement une question de méthode, c'est aussi une question de projet. Moi, je suis d'une génération de professeurs qui a commencé sa carrière avec l'injonction de ne pas transmettre des connaissances, mais de faire que les élèves puissent produire leur propre savoir. On nous a expliqué qu'il y avait dans la culture transmise, dans le cours magistral, dans l'effort d'enseigner tout simplement, une forme de pulsion inégalitaire, aristocratique et aliénante pour les élèves. Et finalement, tous les camps politiques ont leur responsabilité dans la crise de l'école. Bien sûr, je ne veux pas considérer qu'il y ait un camp plus qu'un autre qui ait une part de ce bilan catastrophique auquel nous sommes parvenus. Mais le fait est que j'avais été particulièrement marqué, par exemple, par le débat pendant le quinquennat de François Hollande sur le fait de supprimer le latin. Parce que le latin était perçu justement comme une discipline archaïque et surtout profondément inégalitaire. Mais le fait est que, regardez ce qui s'est passé, on a supprimé le latin dans l'enseignement public avec la bénédiction de l'enseignement privé qui soutenait la réforme du collège, mais évidemment, l'enseignement privé a continué de l'enseigner. Et donc, à la fin de tout cela, ce sont les élèves de l'enseignement public, et notamment les élèves déjà les plus défavorisés, qui se trouvent privés de ce qui constituait pour eux un moyen d'échapper peut-être à la relégation sociale et scolaire à laquelle ils se trouvent plus condamnés que jamais. Et la question qui est posée, au fond, aujourd'hui, c'est quel est le but de l'école? Quelle est sa finalité? Moi, je crois que quand on aura réaffirmé que la finalité de l'école, c'est de transmettre à tous les enfants, d'où qu'ils viennent, la culture, la connaissance, les savoirs fondamentaux, alors on retrouvera la méthode, on retrouvera les moyens, on retrouvera l'organisation qu'il faut pour pouvoir y parvenir. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le sens de la finalité.
C'est quand même important que les élèves comprennent pourquoi c'est intéressant de faire du latin, parce que si on fait du latin d'une manière hyper mécanique, parce que les parents vous ont forcé, c'est pas génial ni pour le latin ni pour les élèves.
Mais c'est ça la magie de la pédagogie, c'est que en fait, il faut aussi admettre qu'on va commencer par faire quelque chose qu'on ne comprend pas encore et qu'on comprendra après coup. Et si vous voulez que dans l'école, il n'y ait jamais rien qui soit exigeant, qui soit parfois difficile, qui soit parfois monotone ou ennuyeux, mais c'est la vie aussi de tous les élèves et même de tous les professeurs, mais il faut bien passer par ce chemin-là pour qu'un jour on puisse découvrir, à travers ce qu'on a reçu, l'éblouissement de la signification que le monde peut prendre sous nos yeux. Il faut commencer par apprendre des tables de multiplication, et c'est parfois un peu austère, pour qu'un jour les mathématiques révèlent leurs secrets et se fassent découvrir à nous comme l'occasion d'une intelligence nouvelle du monde qui nous entoure. Et ça, ça suppose effectivement la pédagogie, c'est-à-dire ce trésor de sagesse difficile, compliqué, par lequel on emmène un élève sur un chemin qu'il n'aurait pas emprunté de lui-même. Parce que si vous attendez qu'un élève ne fasse que des choses qu'il comprenne déjà, Alors d'une certaine manière, il n'a pas besoin de venir à l'école.
Il y a des enfants qui sont quand même très très bien préparés, beaucoup plus que d'autres. Donc on ne sait pas si sur eux, c'est la pédagogie qui fait sa magie ou si c'est ce bain culturel dans lequel ils baignent.
Mais moi, je pense qu'aucun enfant n'est moins capable qu'un autre d'apprendre, de découvrir et demain d'inventer et d'écrire. Le fait est que c'est précisément la situation d'injustice actuelle qui a créé cette relégation. Mais je ne crois pas une seule seconde que les enfants qui grandissent dans des quartiers plus favorisés soient par définition plus près que d'autres à apprendre. Non, ce qui fait la différence, c'est effectivement la proposition qui leur est offerte, y compris à l'intérieur de l'école. Et je crois encore une fois que c'est le paradoxe absolu. Nous avons parfois, par volonté légitime de combattre les inégalités, fini par organiser l'école la plus inégalitaire d'entre toutes. Le fait est que moi, je l'ai vécu comme professeur dans des quartiers difficiles, comme beaucoup de jeunes professeurs où j'ai commencé à enseigner. Les élèves que j'ai rencontrés ne sont pas moins passionnés par la philosophie que je partageais avec eux. Et lisez Augustin Dumière qui parlait de la manière dont il faisait apprendre Homère et Shakespeare à ses élèves de banlieue. Lisez tant de témoignages de professeurs qui ont montré à quel point le latin, le grec ancien n'était pas du tout moins enthousiasmant. Mais je parle du latin et du grec, on pourrait parler de bien d'autres disciplines. Pour des élèves qui grandissent dans des quartiers difficiles ou qui sont eux-mêmes issus de milieux défavorisés. Au contraire, il y a parfois même plus d'enthousiasme et d'intérêt dans ces lieux où les élèves ont souvent beaucoup moins reçu socialement et matériellement que dans des endroits où on se retrouve devant des jeunes qui ont le sentiment de ne jamais manquer de rien. Mais le fait est qu'en tous les cas, je ne crois pas du tout que ce soit parce que nos élèves aient refusé d'apprendre que l'école est en crise aujourd'hui. Je crois qu'elle est en crise d'abord parce que nous avons refusé de leur transmettre ce que pourtant ils attendaient.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Alors François Dubé, j'imagine que vous n'êtes pas complètement d'accord avec François-Xavier Bellamy. C'était important de l'écouter, d'entendre cette argumentation. Et par ailleurs, moi je voudrais quand même vous rapprocher tous les deux ou tous les trois avec Najat Vallaud-Belkacem, votre co-autrice, parce que dans ce livre, Le ghetto scolaire, pour en finir avec le séparatisme, vous dites que l'école française n'a pas suffisamment réfléchi aux pédagogies. Aux pédagogies qui permettraient à tous les enfants de réussir, aux ambitions qu'on doit avoir pour les enfants de milieux populaires. Et vous avez parlé du petit lycée à l'endroit du collège unique qui aurait été mal pensé dès le départ. Et donc, l'école française doit développer bien davantage une manière d'apprendre à des élèves. Parce que cette question, à des élèves de milieux populaires ou dont les parents ne sont pas diplômés, parce que cette question du niveau, elle est très très importante pour les familles aussi.
Oui, le travail que nous avons fait avec Najat Vallaud-Belkacem est un travail sur les politiques scolaires. Mais ce n'est pas un travail qui rentre dans la classe. Or, il est bien évident que ce qui se passe dans la classe est essentiel. Et là, on peut dire, sans faire dans le pathos, qu'il y a aujourd'hui une crise de l'éducation, mais qui n'est pas, je voudrais bien le dire, française, hein, qui est une crise de l'éducation, c'est-à-dire une crise du modèle de transmission, dans laquelle l'école avait le monopole de la transmission du savoir, l'autorité culturelle qui le permettait, une école qui était un sanctuaire très protégé des désordres du monde. Ça n'est plus le cas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quasiment dans tous les pays, on a des difficultés pour recruter des enseignants parce que le métier est trop difficile, y compris dans les pays où les enseignants sont nettement mieux payés qu'ils ne le sont en France. Donc, incontestablement, il y a un problème.
Donc, y compris en Allemagne, au Luxembourg.
Non, y compris en Allemagne, au Luxembourg, je peux vous dire que les salaires sont très sensiblement supérieurs à ceux de la France. Je ne parle même pas des États-Unis ou de l'Angleterre, où, au bout de 5 ans, 40% des enseignants ont déjà démissionné. Donc, c'est pas une affaire française. Alors, ça pose un tas de questions. D'un côté, la formation des enseignants, qui est quand même pas ce qu'on fait de mieux en France aujourd'hui. Je crois qu'il y a aussi à avoir une réflexion peut-être politique et civique. C'est qu'est-ce qu'on doit apprendre à l'école? Parce que si l'on est dans une école qui enseigne ce que devrait savoir un élève qui appartiendra demain à l'élite, ce qui est souvent le modèle de l'école ambitieuse, etc. Donc, si l'école commune fait ça, vous avez, au fond, des élèves qui sont toujours définis par leur échec, leur échec relatif. Donc, peut-être faudrait-il aussi être capable de se poser la question, indépendamment de ce que deviendront les élèves demain, qu'est-ce qu'on leur doit ? Après, les collèges, il y a le lycée, il y a la compétition, etc. Ce sont des questions politiques essentielles. Alors, aujourd'hui, Les débats scolaires sont très compliqués parce qu'on est en France, enfin de mon point de vue, là je parle vraiment pour moi, dans un pays qui aime trop la théologie scolaire. On parle un peu comme François-Xavier Bellamy, on parle de la grandeur de l'école.
Alors, vous ne pouvez pas discuter ensemble, mais quand...
Non, mais de la grandeur de la culture.
Mais quand Gabriel Attal parle du choc des savoirs, c'est bien du niveau dont il est question et du niveau à attendre de l'école, parce que c'est ça aussi, pour revenir à votre sujet, mais vous en parlez, de la question pédagogique dans le livre, François Dubé, c'est ça qui peut faire fuir aussi une école où on aura l'impression que son enfant n'apprendra pas suffisamment, n'ira pas jusqu'où il doit aller, et cette inquiétude, tous les parents, beaucoup de parents la partagent.
Je veux dire qu'il y a un choix à faire. Est-ce que l'école commune, c'est l'école qui est la propédeutique de la sélection? Ou bien est-ce que c'est l'école qui donne à tous les futurs citoyens de ce pays ce qu'ils peuvent avoir en commun comme compétences, comme culture, comme imaginaire politique, etc. C'est ça le choix. Si vous dites l'école, c'est le début du tri de la sélection, il faut commencer en grande section maternelle. Ce n'est pas la peine de se raconter trop d'histoires. Donc, il y a un choix à faire.
Mais est-ce qu'on peut dire qu'une école non sélective serait aussi efficace, aurait des résultats à la hauteur de ce qu'on a maintenant? Aux gens à qui ça pourrait faire peur, est-ce qu'une école moins tournée vers la compétition, on peut le prouver? Est-ce qu'on a des études
Je constate que les pays qui ont des traditions moins sélectives, les enseignants mieux formés, ont des élèves qui ont un meilleur niveau, et à la fin ont des élites qui ne sont pas plus mauvaises que les nôtres, et que nous avons, nous, un imaginaire scolaire qui fait que l'égalité des chances, c'est l'égalité des chances d'entrer dans une grande école dans laquelle les élèves n'iront pas.
Ces pays, ce serait...
C'était traditionnellement la Finlande. La Finlande, le Danemark, la Suède, qui est en train de beaucoup changer, et pas en bien.
Alors la Suède, ils ont beaucoup privatisé leur école
C'est pas très bien ce qui se passe en Suède. Mais quand l'idéal scolaire de Gabriel Attal, c'est Singapour, on pourrait discuter. En termes éducatifs. C'est-à-dire, vous avez aussi des modèles extrêmement compétitifs, extrêmement stressants, avec des élèves qui sont sous pression en continu. C'est peut-être pas aussi la manière dont on a envie d'éduquer les enfants.
Est-ce que le débat public manque de hauteur de vue? C'est ce que vous avez semblé dire.
Je pense que je reprendrai là-dessus le jugement de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Antoine Pro. Qui a une
grand historien
qui a une vision très sage.
Assez engagé.
Très engagé, mais
à gauche.
Très engagé, mais en même temps, pas dupe, si je peux me permettre. Et qui condamnait la pauvreté du débat scolaire en France. Il est bien évident que quand vous regardez la dernière.
Avec tout le mal que je me donne, la dernière, François Dubé.
Non, mais quand vous regardez la dernière campagne présidentielle, c'était un peu pitoyable d'une certaine façon. De voir qu'on était dans des réflexes et pas vraiment dans des propositions. C'est pour ça que dire ce qu'on pourrait faire, c'est pas mal.
En une minute, pour en finir avec le séparatisme scolaire, François Dubé, mais ce qu'on voit dans les grandes villes, c'est aussi un désir fou de distinction à travers ces choix scolaires. Alors, c'est pas tout le monde, mais quand même, ça représente une partie du public des écoles privées qui ne se valent pas toutes. Certaines sont plus réputées et offrent un pédigré aux élèves. Ça compte aussi.
Énormément. C'est pour ça que si on admet...
C'est un peu l'ambiance actuelle.
Non, mais si on admet que c'est l'ambiance actuelle et que ce sont des mécanismes lourds, on pourrait dire au moins, de façon un peu rawlsienne, si vous voulez, on peut dire... Ok, le monde est comme ça, mais on gèle le jeu jusqu'à 16 ans. Jusqu'à 16 ans, on n'entre pas dans ce mécanisme. Jusqu'à 16 ans, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit à tous les élèves? Est-ce qu'on leur doit ensemble? Après que le match commence. Mais au moins, ce qui me paraît moi très inquiétant, c'est que le match commence de plus en plus tôt. Il commence de plus... Et au fond, on observe aujourd'hui des mécanismes de séparatisme scolaire qui commencent à se faire... bien avant le collège, où on va commencer à s'interroger sur la qualité de la grande section maternelle. Donc là, ça devient quand même un peu inquiétant.
et ça ne vous a pas donc échappé. François Dubé qui publie avec Najat Vallaud-Belkacem Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme dans la collection La République des idées au Seuil. Merci à Avril Ventura qui collabore à la préparation de tous les numéros d'Être et Savoir, à Perret Legras qui réalise tous les numéros et les épisodes donc d'Être et Savoir, et à Sébastien Royer qui était à la prise de son ce soir.